Alors, je voulais d'abord un peu remettre en place qui était Jean Ristad très rapidement. Donc, écrivain, poète, dont l'œuvre est très très diverse, mais ce que je voulais. Je voulais appuyer au début sur le fait qu'il a été très proche des avant-gardes poétiques dans les années 60-70, très proche de Tel Quel, et lui-même a fondé sa revue Digraphe en 1974. Digraphe, il prend ce mot de Derrida, de Jacques Derrida, pour penser, et on le verra tout au long de cette intervention, la pratique et la théorie littéraire ensemble. C'est-à-dire que c'est un espace de liberté pour les jeunes écrivains dans ces années. Digraphe, c'est de 1974 à 2000, où la pratique littéraire nourrit la théorie littéraire. Et donc il faut toujours, je me suis attaché dans tout l'exposé, à la fois vous donner des exemples de vers, de pratiques poétiques, mais aussi une réflexion, parfois dans cette pratique, parfois plus théorique, qu'a Jean Ristad sur sa propre écriture et sur la littérature. Il faut aussi souligner qu'il est aujourd'hui directeur des lettres françaises, qui paraît tous les mois dans l'Humanité. Et c'est important parce que c'est là l'héritage d'Aragon. Il y a très peu aujourd'hui de poètes qui prennent en charge comme ça des revues littéraires. Et il y a là un héritage d'Aragon qui lui aussi était directeur des lettres françaises. C'est d'ailleurs lui, Aragon, qui le découvre quand Jean Ristad est tout jeune. Dans un article justement des lettres françaises, il écrit sur l'un de ses premiers livres, Le lit de Nicolas Boileau et de Jules Verne. Aragon écrit: Je tiens ces premiers pas de Jean Ristad pour l'une des choses les plus singulières auxquelles il m'a été donné d'assister dans cette chienne de vie. Et donc Jean Ristad était très très proche d'Aragon, et il est aujourd'hui responsable de son édition complète à la Pléiade. Et cet itinéraire poétique, il fallait bien que je trouve un axe qui est forcément assez subjectif, mais qui est quand même central dans l'œuvre de Jean Ristad. Je l'ai appelé le peut-être comme vouloir être. Ça peut paraître jargonnant comme ça, le peut-être comme vouloir être, mais c'est une idée très très simple. C'est que la poésie de Jean Ristad est toujours une projection de l'existence vers l'inconnu, c'est-à-dire qu'il faut penser le peut-être non pas comme une incertitude précaire, mais comme un possible. Un possible multiplié dans les sens, un possible avenir. Et Jean Ristad le dit très bien, notamment il travaille beaucoup sur l'identité. Sa poésie ne cherche pas à fixer une unité. Les sens sont multiples. D'ailleurs, sa poésie n'a de cesse d'acter la mort des dieux et travaille à l'éclatement et du sens dans la poésie et du sujet pour contrecarrer toute idée d'identité fixée. Et c'est sur ça que je voulais insister vraiment aujourd'hui, c'est sur cette identité protée que Jean Ristad revendique. Il affirme, par exemple, dès ses premiers livres, être à la réincarnation symbolique, bien sûr, de Nicolas Boileau, de Jules Verne, de Lord Byron. Il se réclame de Louise de Gongora, d'Aragon, bien sûr, de Ponge, de Raymond Roussel. Et il y a vraiment cette idée de travailler avec le passé et avec le passé littéraire pour créer quelque chose de nouveau. Mais ça joue également sur cette idée d'identité qui n'est jamais fixée, qui n'est jamais une et qui est toujours multiple. C'est Aragon qui disait « L'homme est un animal multiple ». Et je vais m'attacher aussi à montrer que cette idée du peut-être comme vouloir être, elle est également très politique. Et pour ça, je voulais tout de suite vous donner une citation qu'il propose dans la préface d'une de ses pièces de théâtre, une tragicomédie qui s'appelle « La perruque du vieux Lénine ». Qui montre à quel point cette idée d'un possible est commun aux engagements littéraires et politiques. Donc c'est Julien, je ne vais pas présenter, qui va lire tous les extraits un peu longs durant cette heure. Donc voilà, il écrit ça dans la préface de La perruque du vieux Lénine. C'est
parti. Un jeune communiste est venu me demander, pour son journal, un fragment de La perruque. Je lui dis, pour voir, qu'est-ce qui vous intéresse? Sa réponse, pour ne pas m'étonner, me laissa malgré tout muet de stupeur. Quelque chose d'optimiste. Nous nous battons pour le changement, le bonheur, contre le désespoir, le doute, la décadence. Tant de naïveté, d'inexpérience, n'avait-il jamais aimé pour ignorer que les draps de l'amour sont tissés de larmes? N'avait-il jamais douté de lui-même ou de celle qu'il aime? Ne savait-il pas que nous ne sommes jamais sûrs de rien, pas même de notre incertitude? Qui lui a donc appris à réciter le catéchisme par cœur et avec le sourire? Il croit au lendemain qui chante comme d'autres au paradis.
Donc l'écriture poétique, et c'est ce que je voudrais montrer sur plusieurs, je vais le décliner sur plusieurs points, est vraiment un rempart à cette assurance dogmatique et à ce catéchisme. Et je voulais commencer peut-être par le plus étonnant, c'est son rapport avec le passé. On pense toujours, quand on pense avant-garde poétique, à une idée de table rase. Beaucoup d'avant-garde poétiques ont fait la table rase et ont confondu passé littéraire et passéisme réactionnaire. Jean Ristain ne se place pas du tout comme ça. Dans tous ses vers, qu'on découvrira peu à peu, il y a à la fois la pointe acérée du moderne, mais aussi l'héritage généreux de l'ancien. Et ça, c'est très important parce qu'il fait donc un grand écart, mais il se réapproprie ce passé-là. Et il n'est jamais dans la soumission par rapport à la tradition. Et cela est aussi permis par cette idée de communisme littéraire qu'il développe dans plusieurs de ses livres, où la signature, l'exclusif, quand on signe un bouquin, on se l'approprie, est vécu comme un coup d'État. C'est-à-dire que un écrivain est toujours un lecteur infidèle, un lecteur de nombreux textes aimés et repris forcément dans sa propre création. Et cette idée de communisme littéraire, il le définit comme ça, je vais le lire parce qu'il est assez court. Le communisme littéraire serait la construction d'un espace commun d'écriture où l'exclusive n'aurait plus cours, puisque le génie est un mythe et que l'écriture, c'est du travail. Et si l'écriture est un travail, le domaine littéraire ne peut être écarté d'une réflexion visant à penser une société communiste. Alors, pour faire un peu schématique, la mise en commun des moyens de production devient dans la littérature la nécessité pour chacun de s'approprier les ouvrages et d'inventer un nouveau rapport à la tradition, de déconstruire l'histoire officielle littéraire pour subvertir ce passé littéraire qui apparaît d'abord comme fixe et intouchable. Et ce sera mon premier point sur cette idée de peut-être comme vouloir être, justement ce nécessaire lien entre l'autrefois et le maintenant dans la pratique poétique de Jean Ristain. Il le dit d'ailleurs, il le fait dire par un de ses personnages dans L'Ordre de B, qui est un roman par lettre un roman par lettre. Pour ce qui est de moi, my lord, je travaille l'ancien pour faire du nouveau. Donc il faut bien comprendre que pour Jean Ristain, le rapport au passé va de pair avec le possible à inventer. Le passé lui-même est à réinventer. Il est promesse de l'événement et le souvenir n'est pas un passé fixe. Il est la liberté du passé à la fois appropriée, aimée et rêvée par l'auteur. Et donc je voulais commencer par une citation qui montre à la fois comment il est stigmatisant de penser la paternité d'une œuvre par un écrivain si on pense que son identité est fixe, et comment lui se le réapproprie. C'est une citation du livre Nicolas Boileau et Jules Verne, où il affirme qu'il est la réincarnation de Nicolas Boileau, qui est un poète du XVIIe siècle, donc qui est le législateur de la Pléiade. Voilà.
J'écrivis ces jours derniers. Boileau, c'est moi. Il me semble que ce n'était là qu'un premier pas. L'individualisme en littérature reste une séquelle de l'ancien régime bourgeois. La propriété littéraire est une malhonnêteté. Comment prouver que Boileau est Boileau, et bien l'auteur de... Et quand bien même l'on prouverait qu'il écrivit effectivement, à une période donnée de sa vie, telle ou telle œuvre, qui serait ce « il » ? Quel rapport y a-t-il entre le Boileau des épîtres et celui des satires, ou de l'art poétique ? Je revendique pour les écrivains le droit à l'autodétermination. Ainsi, Boileau, c'est moi. Outre donc qu'il y ait une malhonnêteté à passer de l'individualité problématique, unitaire, de l'écrivain à la propriété, j'affirme que celle-ci est un vol. Boileau, c'est moi. Boileau, c'est nous.
Donc là, il y a bien la dénonciation de ce coup d'État, et vous voyez comment il le met en lien à cette idée d'individualité problématique parce que unitaire, parce qu'on fixe un auteur dans un passé littéraire complètement dogmatique. Lui se le réapproprie et transforme complètement cette idée. Et il y a dans Boileau, c'est moi également une réflexion implicite. Je le disais, il mêle toujours pratique et théorie, une réflexion implicite sur la décision même d'écrire. Boileau, c'est moi, ça veut dire que dans l'écriture, le sujet disparaît. Le sujet n'est plus seulement le sujet Jean Ristain. Lui, il ne le dit pas, il n'est pas le premier à le dire. Rimbaud disait « je est un autre ». Et l'autre est à mon « je est non seulement un autre, mais tous les autres ». Il y a bien cette idée que dans l'écriture, Le sujet, en tout cas comme on pourrait le penser unitaire, disparaît complètement, se déplace. Mais dans le passage à la fin de la citation que Julien a lu de « Boileau c'est moi, Boileau c'est nous », il y a aussi un geste politique. « Boileau c'est nous », il y a là une ouverture au commun, une nécessité d'avoir une mémoire commune. Donc, je le disais tout à l'heure, Jean Ristab prend le contre-pied de la volonté de table rase en faisant de son rapport au passé un rapport subversif, irrévérencieux. Et il l'affirme encore dans « Du coup d'État en littérature », l'un de ses premiers livres, ostensiblement.
Je décide de répéter « ostensiblement », volontairement. J'accepte même de plagier. Ainsi, je prends la parole, j'usurpe le sens. J'organise un rapt en plein jour. Je fais la chasse au sens tout en le déclarant mien.
On voit bien que cette idée de chasse au sens tout en le déclarant mien, c'est bien ce rapport subversif avec tous les auteurs qu'il a aimés et dont il va transformer l'héritage pour se l'approprier et faire quelque chose de radicalement neuf. Et donc, ce qui est intéressant, et on va le revoir sur une autre citation sur Boileau, qui apparaît comme un jeu au départ, mais qui n'est pas qu'un jeu, c'est que le passé fixe devient vraiment mémoire mobile et il s'agit d'injecter du possible dans son rapport au passé. Le rapport au passé devient, et ce sera un extrait de cette citation à venir là, un désir demeuré désir.
Boileau hors de moi, ou Boileau en moi, ou Boileau hors de Boileau, il ne reste rien sinon un point, une virtualité qui permet l'acte, renferme l'écriture dans son possible. Boileau est le possible, le désir demeuré désir, s'enroulant indéfiniment sur lui-même. Le désir toujours refusé et qui va se perdre dans l'espace d'un langage qu'il mesure et constitue, l'autre soi-même.
Alors ça peut paraître un peu abrupt de commencer comme ça parce que c'est assez théorique, mais ce qu'il dit est finalement assez simple et mis en pratique dans toute son écriture. Donc je voulais tout de suite la rattacher à la pratique avec un de ses derniers poèmes qui s'appelle « Le voyage à Jupiter et au-delà peut-être ». Donc il y a toujours cette idée de peut-être, mais pas perçu dans la précarité, mais dans le possible. Un très court passage de ce poème, où l'on voit à quel point il se réapproprie les figures qu'il aime pour les subvertir. Donc ce très court passage qui fait que six vers mêle Lord Byron, qui prend le masque d'Aragon et retrouve le voyou d'Apollinaire. Tous ces poètes, Jean Ristab s'amuse à les rassembler dans un même geste anticlérical dans cet extrait.
Qu'ai-je donc aperçu dans l'ombre sous les arcades, Byron déguisé en maquerel Aragon, mendiant sous les icônes de la Vierge Sainte. Si triste qu'un voyou prend pitié et se dé, couvre en s'inclinant bien bas Madame Lebon, Dieu se déculotte et s'offre à votre fouet.
Alors cette lecture vous paraît bizarre, mais c'est pour ça que je vous propose de vous donner des poèmes de Ristab à la fin. Il coupe les mots souvent à la fin des Alexandrins pour faire rebondir le sens. Il multiplie les sens comme ça, mais on le reverra à la fin. Et là, on voit bien dans cet extrait toute l'intertextualité permet de construire un monde confus autour du jeu dans ce geste subversif et anticlérical. Et il faut bien comprendre que cette pratique de l'intertextualité permanente chez Jean Ristab, intertextualité, c'est-à-dire cet emprunt littéraire permanent qui nourrit ses poèmes, est aussi un geste politique. La mémoire est très importante, surtout je pense aujourd'hui, et Jean Ristab le dit, pour ouvrir un autre rapport au temps dans une époque soumise à l'immédiateté de l'information et à l'urgence permanente. La mémoire est bien aujourd'hui un élément essentiel de la pratique littéraire pour contester l'urgence imposée par les sociétés capitalistes. Et ça, Jean Ristab le dit très clairement dans la préface, notamment à un livre de Maurice Bourg.
Célébrons la mémoire dans une époque où tout est organisé afin de nous rendre amnésiques. Sans passé, nous ne sommes plus que des fantômes livrés aux caprices du vent, des marionnettes dont nul ne sait qui tire les ficelles. Et si l'homme doit mourir comme les dieux qui disent qu'ils disparaissent, au moins après avoir lutté. La grandeur et la misère de l'homme résident dans sa capacité à se souvenir, c'est-à-dire à transmettre et à témoigner.
Donc là, cette citation est assez claire. Le souvenir et la... Non, dites-moi. Je vois que vous...
Oui, justement. Non, mais je prends des notes, c'est pour ça.
Oui. Non, mais n'hésitez pas, par contre, on a...
Le souvenir permet la projection réajustée de l'avenir. Juste ce souvenir permet la projection réajustée de l'avenir, infinitif, souvenir à venir, infinitif pour ce même bonheur infinitif. Voilà. C'est une note que j'ai prise.
D'accord.
Je vous présente Lucien. En fait, je suis considéré par ma maison d'édition comme un poète.
Ouais.
J'ai écrit deux livres déjà, et bien entendu, je m'intéresse à mes confrères.
Ouais, évidemment.
Et voilà, c'est pour ça que je suis.
D'accord. Bah, enchanté. Et bon, j'enchaîne. Cette liberté par rapport au passé littéraire, c'est bien dans la déconstruction, on l'a dit, de l'histoire littéraire qui fixe les œuvres et les auteurs. Et elle va de pair, et ce sera mon deuxième point sur cette idée du peut-être comme vouloir être, avec une déconstruction du discours dominant sur les genres sexuels, que j'ai à dessein appelé communisme et liberté, parce qu'on va voir que chez Jean Ristal, la revendication pour contester les genres sexuels déterminés, qui encore une fois fixe l'identité et le discours dominant sur la sexualité, n'est jamais une revendication catégorielle. C'est bien une revendication révolutionnaire. Elle s'insère dans une réflexion politique et dans une réflexion révolutionnaire. Il y a là, pour traiter de cette idée de communisme et liberté, deux œuvres privilégiées sur lesquelles j'ai choisi d'insister. C'est La perruque du vieux Lénine et l'autre Pour hâter la venue du printemps. Donc on va commencer par La perruque du vieux Lénine, qui est une tragicomédie. Alors, j'expliquerai rapidement l'histoire après. Je voulais commencer par une citation de la préface de cette tragicomédie, où Jean Ristas cite, puis commente l'article homosexualité de l'Encyclopédie soviétique.
Je le répète, la liberté ne se divise pas. Et le texte de l'Encyclopédie soviétique n'a rien à envier à l'arsenal juridique des pays dits libres. Dans la société soviétique, de saine moralité, l'homosexualité est réprimée en tant que dépravation sexuelle et punie par la loi, sauf en cas de désordre psychique. Loi du 17 décembre 1933, privation de liberté de 3 à 8 ans. Dans les pays bourgeois, l'homosexualité, signe de la décomposition morale des classes dirigeantes, est un fait impunissable.
Donc voilà, c'est forcément un peu un choc de lire ça aujourd'hui, mais ce qui est surtout intéressant, c'est à la suite de cette citation donc de l'article homosexualité de l'Encyclopédie soviétique, Jean Ristas s'interroge tout de suite, qu'est-ce que le socialisme sans la liberté d'aimer? Et c'est une des questions fondamentales de ces livres. Cette tragicomédie met en scène Lénine, et on voit bien dans le titre, La perruque du vieux Lénine, là déjà il y a un déguisement identitaire qui est intéressant et qui reprend une anecdote historique. Lénine a dû mettre une perruque vraiment pour revenir en Russie avant la Révolution. Et donc il fait jouer dans cette tragicomédie Lénine, mais aussi un vieux poète qui est Aragon à peine masqué, un jeune poète et une jeune poète, eux et elle, qui sont interchangeables. Là encore, on joue sur l'identité. Et oui, bien sûr, il y a une référence, oui, évidemment. D'ailleurs, on va en parler. Oui, bien sûr. Et ils sont face à des hommes d'ordre, des avocats, des médecins, qui veulent enfermer A qui délire. Mais son délire est en fait le symbole de la création poétique et de la liberté dans le souffle poétique. Et également, le fait que Jean Ristas met en scène A qui délire comme symbole de la création poétique, et également Lénine avec une perruque, c'est l'idée de ne jamais construire un fantasme identitaire sur une glorification, une statue des grands hommes. Ça Jean Ristas, il revient souvent, c'est très important pour lui. On ne doit jamais, pour la glorification, simplifier ce qu'a été un homme. Et cette tirade de Aragon à peine masqué, que je vous propose là, à la mort du jeune poète, montre son délire poétique, mais joue aussi de sa biographie, on va le commenter ensuite.
Qu'est-ce qu'il raconte? Il se prend pour Jeanne d'Arc, comme, elle, il entend des voix pauvres, petits. Tu ne sais pas jouer la tragédie? Où est mon masque? Théâtre, me voici éternellement jeune. Pour toi, j'aurai toujours la folie de Phèdre. Désirant Hippolyte, et comme elle, j'irai m'aveugler. Dans le soleil d'un miroir, je sens, contre mon ventre, battre là ma force d'homme, à l'approche d'un bel animal. Je sais dresser des pièges, tout s'achète et se vend, tout même leur bon Dieu, tu m'entends, ô petit, dans les cendres de l'amour, comme une forêt dévastée, après la foudre jouir encore, et dans le plaisir de foutre, perdre la vie. Tu dors, on dirait qu'il est mort, toutes ces petites bêtes, des fourmis sur le carrelage, ô quel désordre, dans cette pièce, où est mon cou, tôt qui m'a volé, je n'ai plus rien, je suis seul, est-ce vous messieurs, sale médecin qui m'envoyait des fourmis? Avocat de malheur, charlatan, payé pour remplir les prisons, je vous prie de sortir, j'ai dit dehors, lâchez-moi. Ils vont me tuer, m'étrangler au secours, camarade.
Alors c'est peut-être difficile à entendre comme ça, mais encore une fois, je vous proposerai des livres après. L'alexandrin qui coupe à chaque fois le rythme travaille vraiment le rythme et va de pair avec cette idée de jeunesse. Aragon, dans cet extrait, se munit d'un masque qui le rend éternellement jeune. Et c'est bien cette idée de la poésie. On a l'impression qu'il délire, passe sans transition du désir de séduire à la critique de la société capitaliste et de sa morale monnayée. Mais l'absence de transition n'est pas absence de logique. Il en va de la biographie d'Aragon à partir des Cendres de l'amour, je vous le relis rapidement. Et même avant, enfin, dans le désir, l'approche d'un bel animal, je sais dresser des pièges, tout s'achète et se vend, même leur bon Dieu. Jusqu'à cette référence au Cendres de l'amour, il y a bien là une référence à la biographie d'Aragon et au refus d'institutionnaliser le couple en image d'Épinal, le couple Elsa Triolet et Aragon. C'est bien une réaction pour tous ceux qui s'offusquent de la fin de vie d'Aragon. Aragon a toujours été la liberté même et ce désir qu'il a eu notamment pour les hommes et dont il ne s'est jamais caché ne va pas contre la réalité de l'amour qu'il a vécu avec Elsa. Et toute cette tragicomédie travaille à déconstruire, à détruire toute figure consensuelle et dogmatique, que ce soit de Lénine ou d'Aragon. Je vais maintenant passer à l'autre pour rater l'avenue du printemps, qui est en poche. Ça, je voulais juste vous le préciser pendant la formation. Il y a quand même un livre de Jean Rissa très accessible partout, un Gallimard poche, qui contient quatre de ses longs poèmes. Aude pour rater l'avenue du printemps est un poème très particulier qui est adressé, la dédicace est à mes camarades du PCF. C'est une sorte de tract poétique où l'auteur se risque et met en scène un sujet souffrant pour en appeler à la liberté, à la fin des oppressions et des ghettos, y compris des ghettos homosexuels, mais également pour contester le discours réactionnaire sur l'homosexualité qui traverse forcément le discours dominant et réactionnaire sur l'homosexualité qui traverse alors également le discours des camarades du Parti communiste. Donc je commencerai pour présenter cette œuvre par la fin. Il n'y a que deux vers. Ô camarades, on a comme une impatience de printemps. Et je vais faire un peu de grammaire bizarrement pour commencer, pour présenter cette œuvre. Ce « on » est très important. C'est bien une adresse directe aux camarades, mais il emploie « on » à dessein pour signifier l'indéterminé et le mouvant. L'indéfini compris comme une communauté, mais une communauté qui n'assigne aucune identité à personne. On a comme une impatience de printemps. Donc je vais vous proposer plusieurs extraits de ce poème, dont un dans la section 10 que Julien va lire, qui est une construction en miroir qui renvoie dos à dos l'attitude bourgeoise et la pratique des communistes et le discours des communistes qui sont, je l'ai dit, traversés forcément par le discours dominant.
En province, le temps s'étire comme un chat. Le soir, les bourgeois restent en bonne compagnie. La rue appartient à la misère, aux travailleurs immigrés, mon frère, au comptoir des cafés, tous ils détournent la tête comme on les nomme, bons français, coq un peu gras au chef déplumé, et quand ils font l'amour, ils éteignent les lampes. Le dimanche matin, camarade, ouvres-tu les volets, les femmes, ça te connaît du moins. À ce que tu racontes avec force coup, de coudes dans les côtes et un clin d'œil complice, mais à quoi pense-t-elle donc, tandis qu'à table, elle serve les hommes au lit, elle crie assez, disent-ils.
On voit bien comment, ici, la critique du conservatisme bourgeois et la fin sur le discours réactionnaire des camarades sur les femmes est encadré, enfin, au centre se retrouvent, et c'est pas un hasard, les travailleurs immigrés. Travailleurs immigrés, mon frère au comptoir des cafés, tous ils détournent la tête, comme on les nomme. Encore une fois, cette revendication pour la liberté et pour la redéfinition des identités sexuelles, ou pour l'explosion de ces identités sexuelles, va de pair avec est un discours révolutionnaire et non pas catégoriel. Et donc, il s'insère toujours dans la poésie de Jean Rista sur une problématique politique plus large. Et à ce discours réactionnaire et à cette pratique bourgeoise de pudeur et de honte de soi en fermant les volets lorsqu'ils font l'amour, Jean Rista répond un peu plus loin dans le poème par l'exaltation du désir sexuel dans un milieu urbain où se mêle encore une fois l'engagement politique avec la présence masquée de Aragon. On va en parler après cet extrait.
Les braves gens dorment derrière leurs veaux, l'air un poteau télégraphique nous sert, de lits et les voitures qui passent étouffent, le cri du plaisir le long des chemins, où le vieux monde s'écroule, il court avec son large chapeau, sans nous voir il cueille des violettes pour se composer un habit funèbre, je l'entends chanter l'international avec une voix de fausset et des cris suraigus des ongles, dans mes épaules tes dents sur mes seins, oh tu me chevauches comme un pont la rivière.
Ici, la perte de l'identité et du sens dans le rapport à l'autre fait de la libre sexualité une revendication politique, d'autant plus qu'il y a la présence avec son large chapeau, c'est le fameux chapeau à large bord d'Aragon, du politique, mais du politique, il faut bien voir, il chante l'international, je relis, chanter l'international avec une voix de fausset, des cris suraigus. Il chante international de manière désinvolte. Et ce n'est pas innocent, ce cri pour la liberté avec ce poteau télégraphique qui nous sert de lit et cette exaltation du désir dans le milieu urbain va de pair avec un chant de l'international, mais de manière désinvolte, comme si... comme s'il s'agissait bien de dire qu'on ne peut pas séparer forme et contenu. Le contenant et la manière de le contenir, il y a une attitude à avoir. Bon, là, je l'ai déjà dit sur la citation sur la revendication catégorielle. Oui.
Sur ce passage,
oui.
Dans notre cas, bon, là, c'est par rapport à. Mais, bon, je cherche moi aussi. Une réappropriation, j'ai noté ça comme ça. On fait ce qu'on a fait, une réappropriation sensuelle, entre guillemets, de l'action et des temps de vie. Voilà. Et de la lecture, pour arriver à une écriture plus fluide, presque automatique. Voilà, c'est ce que...
Oui, c'est ça, et sur cette idée d'écriture automatique, bon, du coup, je digresse un peu, mais il a écrit, Jean Rista a écrit un livre étonnant qui s'appelle « Le déroulé cycliste ». Où il construit une bicyclette mentale. Il note le début et la fin de son écriture. Il va très très vite, donc c'est presque de l'écriture automatique, même si elle est en fait impossible. L'écriture est toujours concertée. Et il coupe comme ça ses vers, et ça dit beaucoup de choses, mais sur l'inconscient même. Voilà. Et sur cette fluidité, c'est tout à fait l'idée de Jean Rista, sur ce rythme, ce souffle poétique, où on coupe les mots, où il y a des images tout le temps qui s'abreuvent, mais ça, on le verra aussi dans la suite. Et dernier point sur cette ode pour rater la vie du printemps, il y a également toute une réflexion, et ça, encore une fois, dans toutes les œuvres de Jean Rista, sur l'idée que le changement révolutionnaire ne peut se concevoir sans un nouveau rapport à la langue. Ben, on parlait de cette fluidité, mais... Il... Enfin, la poésie de Jean Risset peut paraître très compliquée parce qu'elle est exigeante. Elle est exigeante, c'est sûr, formellement, elle est exigeante. Mais ça aussi, c'est politique. C'est-à-dire créer un autre rapport à la langue et empêcher la langue presque transparente des médias et de la société d'aujourd'hui, c'est déjà politique. C'est le sens de cet extrait, encore une fois, de L'autre pour Athée, l'avenue du printemps.
Ô peuples asservis à toutes les morales, ô misère de l'amour, ô ma force qu'on brise, sur l'enclume du malheur, je te salue, à venir de la tendre violence du désir sans partage, je t'appelle, ô cœur de l'intelligence, je te déplie, au corps cousu, de la main des parcs comme une fleur de papier, je te délie comme au tronc des chênes, le nœud ou au tricot, la maille aux grammaires des caresses, à réinventer, frappe-moi du silex de ta langue, fais sortir des flammes de ma bouche, avec tes cheveux construis une tente à l'amour, qui frisonne comme un serpent, là-bas l'espoir, se meurt, on emprisonne Mayakovsky, l'ordre a posé sa patte sur les têtes qui pensent la révolution.
Donc, il y a bien dans cet extrait le lien entre cette idée de grammaire des caresses et de grammaire à réinventer, cette imbrication de l'amour, du désir, de la langue à réinventer, mais également d'une référence historique et lucide sur la révolution et ce qu'elle devient, sur la révolution soviétique. Lorsqu'à la fin, il dit « Là-bas, l'espoir se meurt, on emprisonne Mayakovsky, l'ordre a posé sa patte sur les têtes qui pensent la révolution. » Et ça m'amènera à un troisième point sur quelle poésie possible chez Jean Risset. Il faut bien voir que Jean Risset a écrit à une époque, au début en tout cas, dans les années 60-70, à une époque où la poésie est presque inadmissible. Denis Roche dit d'ailleurs « la poésie est inadmissible », mais c'est sur une certaine conception de la poésie qui est transcendante, qui voit le poème comme le beau poème, et avec une idée de l'inspiration. Et d'ailleurs, on parlait du déroulé cycliste, ce roman, il l'appelle à dessein roman, mais c'est que des vers. Il écrit dans la préface, j'ai écrit le déroulé cycliste, dans la haine la plus farouche de la poésie. Mais parce que... Ouais.
Jean Ristard, je ne connais pas, c'est ouais. Ça aussi que je suis venu. Ouais. Et j'ai un peu lu quelques petits trucs, ouais. Comme c'est par-ci, par-là de lui. C'est quelqu'un, un homme d'action aussi, je suppose.
Ouais.
Il est dans la rue. C'est ça, le truc. C'est à un moment donné, on déteste la poésie, mais... Ça fait arriver. On déteste la poésie parce qu'elle prend la poussière. Ces poètes qui sont derrière leur bureau, là, qui écrivent des beaux vers avec des beaux
mots, exactement ça.
Que les trois quarts des gens ne comprennent pas et que quand ils lisent le poème, il n'y a aucune émotion, c'est ce que le monde capitaliste met en exergue pour que tous les gens disent la poésie, c'est un genre mineur, de toute façon, comme rien, etc. J'ai écrit la poésie subversive, celle de Jean Risset et la mienne, j'espère. La poésie subversive est le carburant de l'espoir d'un autrement meilleur. C'est bien pour cela que la société capitaliste la condamne à l'oubli. Mmh. Voilà, et je pense que c'est pour ça que...
Mais oui, c'est ce qu'on va voir là. On va voir aussi que... Pourquoi toute poésie est de circonstance chez Jean Risset. De circonstance. C'est-à-dire qu'il y a un engagement poétique tout le temps.
Voilà.
Et on ne peut pas sans juste penser l'inspiration transcendante et faire de la belle poésie. Il le dit d'ailleurs, tout battleur de foire se croit Rimbaud aujourd'hui. Voilà, il est là le problème. Et donc, il faut bien voir que Jean Risset refuse catégoriquement une forme de poésie qui est dans le mensonge de la posture poétique, de la belle poésie et du poète inspiré. Il le dit notamment dans New York Mécano, dans un extrait de New York Mécano.
En finir avec la masturbation des nymphes, une poudre de perlimpinpin à l'église, sur le cadavre enrubanné, la bouche ouverte, une poule couve la nuit et la clochette, en l'air commande aux agenouillements poussifs, l'abandon dans les sofas des muses à voilette.
Là, il le dit très clairement, en finir avec la masturbation des nymphes, il n'y a pas de force transcendante dans la poésie. Le poète n'est pas une baudruche entre ciel et terre qui aurait reçu l'inspiration de manière transcendante. Mais il faut bien voir que la dénonciation de cette poésie inadmissible va de pair avec un amour de la poésie, et on le lit assez tragiquement dans Le tombeau de Monsieur Aragon, à la mort de, d'Aragon, où il affirme de manière évidente son amour pour la poésie et la nécessité que la poésie se pense dans la cité. Cet extrait-là le montre, du tombeau de Monsieur Aragon. Donc.
Comme un théâtre endimanché de velours, oh, Paris a perdu son poète, Paris ce matin n'a plus d'amant, je vois des hommes se découvrir à ton passage et des femmes se signer, regarde, ô peuple de France, comme il va d'un pas tranquille et blessé, il savait que dire je t'aime.
Donc il parle évidemment d'Aragon. Et on voit là cette importance, Paris a perdu son poète, Paris ce matin n'a plus d'amant. Cette importance de la place du poète dans la cité. Et Jean Rista va encore plus loin, c'est-à-dire que c'est un peu ce que tu disais, c'est la poésie n'est pas juste un genre où on comprend rien et qui n'a rien à voir avec la réalité. Le poète vit et travaille dans la réalité, il est complètement engagé dans la réalité. Et ce n'est pas parce qu'on fait de la poésie qu'on pense l'art comme une évasion du quotidien et comme l'apparition d'un beau surfait mensonger qui n'a plus rien à voir. C'est pas une évasion la poésie, c'est un autre rapport au monde et c'est justement la création de ce possible, de cet autre rapport au monde. Et sur cette prise en compte de la réalité, Jean Rista le dit très bien, sur un article consacré à Aragon, il dit ceci.
Qu'est-ce que cela veut dire la réalité ? La société capitaliste et les contradictions qui la traversent ? La vie quotidienne des ouvriers ? Les HLM ? Les promenades au bois ? Et dans ce cas, pourquoi s'insurge-t-on lorsqu'il prend à l'écrivain l'étrange, vraiment l'étrange, envie d'en rendre compte ? On veut à tout prix le cantonner dans la broderie, l'évasion, la fiction, le poétique, et faire de la littérature une baudruche entre ciel et terre.
Voilà, c'est vraiment cette idée que le poète est dans la cité. Et ça ne veut pas dire qu'il va recopier le réel de manière naïve. La poésie transforme ce réel. Mais justement, il parle du réel, et en transformant la langue, crée du possible dans cette réalité. Il est ancré dans la réalité, mais il crée du possible dans cette réalité. On le voit notamment, je vous redonne un extrait de L'Aude pour Athée, l'avenue du printemps, où la parole poétique s'empare de la réalité. Ici, c'est une situation où il raconte des travailleurs dans les gares. Mais avec ce rythme particulier de la poésie de Jean Rista, qui donne à la vie quotidienne, au bruit de la vie quotidienne, l'énergie du rêve.
Des travailleurs vers les gares, je te raconte, la misère des trains où l'eau s'entasse et la pâleur des visages que la poudre dissimule, mal les parfums bon marché, la tristesse, des corps de femmes aimées à la hâte, dans la poussière du sommeil comme un désert de sable dans la gorge où les roses se fanent et je sens toute la douleur du monde battre dans mon ventre où tu poses ton oreille, comme un coquillage étouffe, écoute mon enfant, le toxin formidable du malheur et de la solitude.
On voit bien là le passage de cette description apparemment directe des travailleurs dans les gares, avec, je trouve, des images très belles sur la pâleur des visages et ces corps fatigués, qui vont glisser sur une impression plus subjective et sur une intériorité du jeu et du rêve. Et c'est là où il faut, parce qu'on voit tout de suite ce qu'on pourrait objecter à Jean Rista, est-ce que le discours dominant sur la poésie va objecter à Jean Rista ? C'est qu'il fait de la poésie un message. Ce n'est plus de l'art si c'est un message. Non, mais je finis sur ça et après... Mais ça, c'est bien le discours dominant qui s'empare de ça pour dire on ne peut pas faire de l'art engagé. C'est Brecht, Bertolt Brecht, qui disait... Ce débat entre l'art engagé qui devient un message et qui n'est plus de l'art et l'art pour l'art est complètement, enfin, n'a pas raison d'être, puisque l'art pour l'art est l'art qui s'inscrit dans le discours dominant et dont on ne voit plus le message, parce que c'est le discours dominant, c'est le discours qu'on a tous les jours. Et ça, Jean Rista le répète, il a beaucoup réfléchi sur le théâtre, et je vais te laisser quand même si c'est petit, cette réflexion sur le théâtre, sur le fait que tout théâtre est politique, mais comme on pourrait remplacer le mot théâtre par poésie.
Il ne faut pas mésestimer l'importance de l'enjeu. Tout théâtre est politique, instrument d'une idéologie, il est selon le cas engagé ou bien classique, lorsqu'il se contente de véhiculer l'idéologie dominante.
Donc là, il reprend Brecht. C'est-à-dire que le théâtre est dit classique et pas engagé, mais il est engagé dans le discours dominant lorsqu'il est classique. Donc c'est un faux débat, en fait, cette question. Et il reprend la figure de Mayakovsky, notamment dans un article sur Aragon, pour montrer cette exigence. Il dit « Ce qui me retient et me fascine chez Mayakovsky, c'est l'alliance de la prise de position révolutionnaire et de l'invention d'une forme poétique radicalement nouvelle, sans que l'une cède à l'autre. » C'est bien cette idée. Réinventer la langue, c'est déjà politique. Mais ça ne veut pas dire que ça devient un message. Au contraire, ça impose une autre écoute, un autre rapport au monde que le discours dominant. Mais donc je vais te laisser. Tu avais.
C'est simple. L'art pour l'art dans le capitalisme. L'art pour l'art porte le message d'une marchandise.
Oui, c'est ça.
Il ne porte pas de message, il porte une marchandise. C'est l'art pour la marchandise. Donc, bien entendu, le dénigrement. Mais je répondrai à ça un petit truc de René Char. C'est pas compliqué, j'aime bien. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur le rêve, un poète ne doit pas laisser de preuve de son passage. Seulement des traces, car seules les traces font rêver, René Char. Donc, déjà, il y a une relation, bien entendu, René Char étant un poète historiquement subversif et aussi un résistant, etc.
Donc voilà ce détour par cette idée de poésie de circonstance. Et je voulais aussi remettre dans le contexte cette idée de poésie inadmissible pour bien montrer que pour Jean Ristam et pour bon nombre de poètes contemporains, la seule poésie encore possible n'est pas la belle poésie des muses dépassées, mais bien celle qui maintient la possibilité d'un autre rapport à l'autre, d'un autre rapport au monde, en construisant un théâtre des possibles. On revient à cette idée du peut-être comme vouloir être. Non pas vécu comme précaire, mais comme impossible et également politique. Et sur cette idée du théâtre des possibles, je trouve que ça va assez bien avec toutes les œuvres de Jean Ristin, que ce soit les poèmes ou son théâtre, qui est plus un rêve de théâtre, on en parlera, qu'un théâtre réellement. Où il n'y a pas de personnage comme dans le théâtre classique, enfin, c'est souvent une autonomie d'un souffle poétique porté par différentes personnes. Et c'est... Je voulais faire un point sur cette idée du fait que la poésie de Jean Rista est une poésie qui rêve de théâtre et de théâtre baroque. Et c'est intéressant parce que vous voyez tous ce qu'est à peu près le théâtre baroque ou pas du tout. Alors, bon, le baroque, c'est un, pour faire un peu caricatural, c'est un mouvement littéraire de la fin 16e, début 17e. Qui s'inscrit dans une période assez mouvementée. Il y a les guerres de religion, il y a des grandes découvertes scientifiques qui donnent conscience à l'homme que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Enfin, il y a toute une époque anxiogène, mais qui donne une production littéraire très intéressante, où tout est métamorphose, changement. Le théâtre baroque est le théâtre des grandes machines, où tout le monde se déguise et se renverse, les identités changent. Les décors changent, avec cette idée qu'on ne peut pas accéder, et ça va avec ce que dit Jean Ristin, à l'essence de l'être. Il n'y a que le paraître mouvant, changeant, et la diversité à l'intérieur même d'un seul homme. Et je voulais montrer ici, mais assez simplement, comment Jean Ristin, et ça va aussi avec cette idée du rapport au passé qu'il se réapproprie, reprend les motifs baroques, qui sont toujours des motifs d'instabilité, de paraître. Il y a toujours dans la dramaturgie baroque les miroirs qui ne donnent accès qu'au paraître changeant, le vent qui est la marque de l'instabilité, du mouvant, du changeant. Mais comment il se réapproprie ces motifs pour les réactualiser et pour les actualiser et en donner donner grâce à ça une lecture du monde contemporain. Donc je voulais commencer par... Une citation assez simple de l'un de ses premiers poèmes qui s'appelle « L'entrée dans la baie et la prise de Rio de Janeiro », qui est une lecture d'un auteur baroque où le vent est omniprésent. Et ici, dans l'extrait que j'ai choisi, va de pair avec cette idée de la finitude qui secoue le sujet.
Cite Down, couronne de l'œil, il y a longtemps que les navires sont prisonniers dans la baie de Rio de Janeiro. Il s'en va le capitaine, et tant que l'un des marins peine à ramer, l'autre regarde les grands oiseaux ou les nuages tendre leur arc, hâtons-nous le jour. S'avance, la terre est encore loin, coque emplumée sur le ventre des flots, à quel cours se nous précipite ainsi vers la mort, tandis que le vent ouvre nos chevelures comme la roue du paon. Ô vieux soleil de ma tête, balance à la fourche de ton carrosse laine.
Ce motif du vent que Jean Ristard reprend, il va l'actualiser avec les problématiques contemporaines et le relier à l'écriture, mais aussi à l'inconscient. Le vent chez Jean Ristard n'est plus seulement comme dans le théâtre baroque, l'image extérieure de l'instabilité et du mouvement. Il devient l'image intérieure, puisque c'est bien le souffle poétique qui sort de l'intérieur, une image de l'inconscient freudien. On va passer un peu. On va avancer un peu parce que... Oui. Une image de l'inconscient freudien. Et je voulais, pour montrer ça, cette actualisation du baroque à partir de l'héritage freudien, donc cette image du vent qui devient, et on voit bien comment c'est cohérent, de l'instabilité du monde extérieur, l'image d'une multiplicité à l'intérieur même de l'homme, puisque image de l'inconscient, je voulais prendre et mettre face à face deux extraits du début de deux pièces de théâtre de Jean Ristard, L'Hécatombe à Pythagore et Le Naufrage de Méduse, où les dieux doivent fermer la porte aux vents impétueux, mais finalement des vents intérieurs, à l'inconscient, aux multiples. Donc d'abord dans l'Hécatombe, au début de l'Hécatombe à Pythagore, Hécate, le dieu Hécate, qui prend la parole.
Ferme la porte à la fureur des vents impétueux, au galop de ses chevaux la nuit s'avance, et frappe du sabot à la fenêtre ferme, j'entends dans le ventre le désordre du feu, le bourdonnement des souffles.
J'entends dans le ventre le désordre du feu, le bourdonnement des souffles. On voit bien comment ce vent baroque qu'il reprend, il se le réapproprie pour le faire intérieur. Et il en est de même dans le naufrage de Méduse, où au début, Athéna dit ceci.
Ferme les volets percés, tire les rideaux, voici Hermès qui rôde et colle son œil, pointu aux fenêtres pour voir les femmes se déshabiller. Ah, le vieux vicieux, ferme donc, souffle les bougies, j'aperçois son grand chat, peau à large bord, l'ombre de ses mains sur les murs comme un lézard, aux aguets enveloppés, dans une cage, dans une cape gonflée d'orage ferme.
Là, le vent intérieur est personnalisé par la figure d'Hermès, le messager des dieux aux sandales ailées. Et ce vent intérieur permet, je disais que c'était une poésie qui rêvait de théâtre, mais d'un certain théâtre qui il permet la spatialisation de l'inconscient. Jean Ristard travaille beaucoup à lier topologie et ontologie, c'est-à-dire à faire de l'inconscient un théâtre. Il parle de l'autre scène. Ce n'est plus le théâtre traditionnel, mais une spatialisation de l'inconscient et du sujet multiple. Et c'est d'autant plus vrai pour le motif du vent qu'il revient tout le temps. Là, on a lu un extrait de l'Hécatombe à Pythagore, on peut en lire un autre juste après, où c'est Rétif de la Bretonne. Il y a toujours une multiplicité de personnages dans le théâtre de Jean Ristard. Ils sont, dans le Naufrage de Méduse, il y a 30 personnages. Dans l'Hécatombe à Pythagore, il y a des dieux, Rétif de la Bretonne, Rousseau, Homère, beaucoup d'écrivains. Mais qui sont... L'unité est créée par cette idée du vent incontrôlable et créateur. Ici, c'est Rétif qui dira dans l'Hécatombe à Pythagore.
Au matin, dans le labyrinthe où s'attarde une étoile, le ciel mordu, la trace du sang, une flamme, quel songe encore à ma langue, frotter le temps m'emporte-t-il, fait-il grand vent dans ma tête, un tohu-bohu d'images et de foudre, à ma lèvre, un nuage suspendu, ô mémoire, ô cendre, dans la main quel oiseau attrapé, un rêve passe, on a coupé le cou des anges.
Donc voilà, c'est toujours dans cette idée que ici, le motif du vent devient l'image et du souffle poétique et de l'inconscient, mais qui sont évidemment liés dans cette idée du multiple, du multiple et et de la création d'impossible et du désir de liberté. Ça va ou non?
Oui, je peux vous dire ce que...
Bien sûr.
Votre remarque à le travail m'a... J'ai fait une petite réflexion.
Bien sûr, allez-y.
Je regardais nos reflets dans le lac, plein reflet d'un instant perdu du paraître. Heureusement, une scène brise ce leva, diluant l'illusion, pour amener le mouvement, nous inspirant à prendre les chemins fleuris. Voilà ce que vous venez de dire, et tout ça m'a...
Bah, c'est très beau.
Merci.
On va passer à la discussion.
Ouais, c'est clair.
J'avance un peu plus vite parce que l'heure tourne, et je voulais revenir sur cette idée du théâtre de l'inconscient, qui est très important chez Jean Rista. Donc, il faut bien voir qu'en plus du motif des motifs baroques réinterprétés, il y a les déguisements multiples. Autant dans le théâtre baroque historique, celui du XVIe, XVIIe siècle, les métamorphoses, les déguisements, le changement de sexe qui était très, très fréquent, ne servaient qu'à construire l'intrigue et faire avancer l'intrigue jusqu'au dévoilement de la véritable identité de la personne. Il y a souvent dans le théâtre baroque une femme déguisée en homme qui devient amoureux d'un homme déguisé en femme et à la fin, tout se renverse. Chez Jean Rista, là encore, il le tire vers quelque chose de plus actuel et vers ce discours sur l'impossibilité de cloisonner les genres sexuels, sur cette revendication politique que, par exemple, dans La perruque du vieux Lénine, elle et lui sont interchangeables. Ce sont deux poètes, mais sont interchangeables dans le même souffle poétique. Ce n'est plus un déguisement pour faire avancer l'intrigue, c'est bien une réflexion sur les genres sexuels et ce que ça dit du discours dominant et de la pensée cloisonnée des genres sexuels. Mais je voulais revenir sur le théâtre de l'inconscient, toujours dans cette idée que l'homme est multiple, l'homme est un animal multiple. Dans Du coup d'État, que j'ai déjà cité, qui est un des premiers livres de Jean Rista, le début commence par un essai sur le théâtre de l'inconscient, qui illustre les tendances psychiques qui se pressent aux portes du sujet conscient. Ce que je disais dans la spatialisation de cette idée d'inconscient freudien. Il en fait un théâtre, Jean Rista, de cet inconscient. Et c'est assez clair dans cet extrait.
Deuxième.
Oui.
Soit une grande antichambre dans laquelle les tendances psychiques se pressent, telles des êtres vivants. À cette antichambre est attenante une autre pièce, plus étroite, une sorte de salon dans lequel séjourne la conscience. Mais à l'entrée de l'antichambre, dans le salon, veille un gardien qui inspecte chaque tendance psychique, lui impose la censure et l'empêche d'entrer au salon si elle lui déplaît.
On voit bien là, avec cette idée de compartiment dans l'espace de salon, la reprise du schéma freudien des entités qui fondent le sujet, mais plusieurs, le ça, le moi, le surmoi. Et on voit bien comment l'écriture peut amener à la libération de ce multiple dans l'homme. Il y a beaucoup, j'ai pris qu'un exemple, mais d'images poétiques qui montrent cette libération du multiple à travers l'inconscient. J'ai pris cette citation du Naufrage de Méduse, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, où c'est Hécate qui est dans une grotte, donc le dieu, et qui célèbre le théâtre où règnent les simulacres et présente donc cette autre scène, le théâtre de l'inconscient. Donc Hécate.
Je n'ai plus de dents et parfois la bave tombe sur ma poitrine comme un collier d'écume. Regarde, je suis le trou de la caverne et jamais tu ne connaîtras le fond de ma bouche. Où naissent les mots, je règne sur les simulacres, je suis le théâtre.
Donc voilà, cette idée de simulacre et de changement incessant va de pair avec cette idée d'inconscient, d'obscurité, de multiples sans fin, d'un vertige du sens. Mais on peut alors se demander si l'homme est un animal multiple. Jean Rista, on l'a dit, pratique l'intertextualité tout le temps. Il y a des milliers de voix qui se chevauchent, à la fois intérieures, à la fois dans l'intertextualité. On peut poser la question du lyrisme. Qui dit « je » dans ces poèmes? Et alors, pour moi, Jean Ristin refuse le lyrisme tel qu'on l'entend traditionnellement. Il n'y a jamais d'épanchement. Même dans l'ode, et c'est pour ça que ce serait intéressant, c'est un court poème de lire, il est vraiment très très beau. Je vais faire un peu de pub. Non mais, même dans l'ode pour rater la nuit du printemps, ou la mort de l'aimé, où il est aux prises avec les sentiments les plus douloureux, bah, la mort de l'aimé dit explicitement que c'est un tombeau et sur l'amour qu'il a vécu avec un homme. Et l'autre, pour rater l'avenue du printemps, est quand même un engagement. Il se risque dans l'écriture, en se mettant en scène face au discours réactionnaire de ses camarades en plus. Mais jamais le jeu va être dans l'épanchement lyrique ou dans le pathos. Parce qu'il y aura toujours ce multiple, soit des voix, soit des identités qui n'ont de cesse de changer. Et le lyrisme chez Jean Ristin, je le vois beaucoup plus dans le vers qui est reconnaissable parmi mille vers. À chaque vers de Jean Ristin, on reconnaît tout de suite le style Ristin. Et peut-être que c'est ça le... Finalement, je parlais de baroque. Baroque, son étymologie, c'est une perle qui ne ressemble à aucune autre. Et je vois là le lyrisme de Jean Ristin, c'est cette énergie lyrique, ce souffle singulier poétique qui notamment est fait, on en a parlé un peu, mais c'est ça peut-être qui rend difficile à l'oreille, parce que la poésie de Jean Ristin est à voir et à entendre, il faut la lire aussi. Parce que avec le décapité syllabique, vous voyez que Julien fait souvent des pauses entre les mots, ça multiplie les sens.
À un moment donné, la poésie est nécessairement verbale, en fait c'est
une tradition. La voix est très importante chez Jean Ristin.
La poésie, c'est Léo Ferré qui le disait déjà, la poésie qui n'est que dans un livre, voilà, à un moment donné, c'est, je veux dire, et ça aussi c'est pareil, le système capitaliste a tout fait pour quoi la poésie. Ah bon, maintenant ils sont un peu des slameurs, il y a des trucs où il y a mais il est très 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 difficile, je veux dire, n'importe quelle poésie, moi je suis le roi du monde, je me mets dans mon coin quand il y a des camarades à moi, quoi, qui disent mes trucs, je sais plus, c'est ça, parce qu'en fait il y a l'émotion qui ressort. Et je pense que Jean Ristin pense ça, c'est le lien. Là, il parlait de la nature, de l'humain, hein, tu sais pas, oui. Prof. Il y a la nature humaine, l'humain social, sa nature sociale, qui a été fait, on en parlait hier avec. Qui a été fait, la nature humaine, elle est faite sociale, faite de camarades, de la vie sociale qu'on a, est faite de la vie de famille, de physiologique, de son père, sa mère, ses frères, machin. Et la nature humaine, elle est faite aussi de sa propre physiologie, de l'inconscient, tout ça, qui est lié nécessairement à l'environnement, à les arbres. Voilà. Je veux dire, on est des mammifères, quoi, on est nécessairement liés. Donc, elle est faite de ces deux choses. Et en plus, on est conscient de ça. Donc, en relation, dans l'écriture, je pense que Jean Ristin recherche cette, pas une harmonie, mais cette, tu vois, cette glaise pour essayer de son style m'inspire ce genre de réflexion.
Voilà. Mais je dirais quand même, c'était le but, je vais finir avec cette idée de souffle poétique, encore une fois, sur... Je disais surtout qu'elle était à lire parce que la lecture multiplie encore, en plus de l'écoute, les sens. Parce que cette poésie est à lire en haut, en bas, à gauche, à droite, tout se multiplie. Mais plus qu'harmonie, dans harmonie, il y a quand même l'idée d'une unité. Alors, composée de plusieurs choses, mais d'une unité harmonieuse. Je parlerais plus de souffle. Il y a vraiment chez Jean Ristin, et c'est très agréable de se perdre dans cette lecture, parce qu'il y a vraiment un souffle poétique où tout s'enjambe, où les images, les métamorphoses s'engendrent l'une après l'autre. Et je voulais finir justement sur cette idée du souffle, qui pour moi est la composante lyrique de cette poésie, avec un extrait un peu plus long. de New York Mécano. New York Mécano est une machine poétique qui construit une promenade dans New York, qui, dans ce long extrait, le poète fait de Central Park un carnaval. Et donc je voulais finir sur cette idée du souffle en prenant un extrait un peu plus long.
Maintenant que nous lui avons donné congé, elle et son harem, les neuf sœurs malodorantes, m'embarrasserai-je d'un tel cortège dans Central Park pour une promenade savante avec un manteau de sonail l'air farouche, du botaniste à longue vue, au bras d'une princesse monégasque à monter descendre tous les sentiers dans une brouette, la libellule déprimée un baiser, lui déchire les ailes, une aiguille, son corset. On a perdu la boussole et la nymphette à la fontaine se tait, étrangement distraite. Une envie d'herbe et de pieds nus dans l'eau. Comment savoir à cette heure de carnaval une amazone sur un cheval au galop, tend l'arc, un jeune homme lit Walt Whitman, un coureur essoufflé comme une machine, sous une bicyclette pour clergyman, en faux col comme un flamant rose, un enfant volant, une troupe de patins à roulettes, un déménageur offre un ice cream à une Diane en robe longue et basket, le cinéma dans les fourrés des amants l'été indien, quelle chaleur dans le chaudron d'un étang les canards, misanthropiques comme de petits marquis, en habits de velours et rubans verts, on n'a plus le temps de mourir, tout juste boire un thé et manger des muffins avant d'aller dormir.
On voit bien comment il mêle. Alors encore une fois, c'est aussi à lire hein, pour le découvrir, Jean Ristache. Je pense que la lecture est nécessaire, mais comment il mêle Diane en basket, donc encore une fois le passé qu'il réactualise complètement, et cette folie du voir un peu, cette vision kaléidoscopique, où tout se mélange, toutes ces visions de Central Park qui sont mêlées et qui créent un souffle poétique qui s'abreuve de lui-même, qui finit par être complètement autonome. Alors, j'ai bien conscience d'être allé assez vite, parce que j'avais qu'une heure pour présenter quelque chose d'assez gros, mais je voulais finir sur, comme on parlait d'itinéraire poétique, c'était le titre, je crois, de cette intervention, je voulais finir peut-être sur quelque chose d'un peu plus poétique, mais qui a des répercussions aussi littéraires, Jean Rista prend toujours la figure du passant, celui qui passe, celui qui ne va jamais être assigné à résidence, celui qu'on ne pourra pas fixer. Et je pense que ça, sur notre réflexion politique, y compris même simplement politique, cette notion de mettre à mal les grands hommes, de se rappeler qu'il n'y a jamais de père, qu'il ne faut jamais statuer les grands hommes, est très importante et pose question dans notre pratique politique. Donc je finirai juste sur une citation. Il prend cette image du passant presque dans tous ses poèmes. « Je n'ai jamais été qu'un visiteur, celui qui passait, et s'il fallait casser du grand homme, je savais bien que telle n'était pas la méthode. Vouloir être grand homme à la place de l'autre ne suffit pas. » C'est bien cette idée d'absence de fixation, alors dans le sens, mais c'est aussi une éthique que Jean Rista propose dans sa poésie, en refusant de fixer l'identité et en refusant toute, par exemple sur Aragon, mais sur Lénine dans La perruque du vieux Lénine, toute idolâtrie et toute construction fantasmée d'un grand homme qui peut nous aussi nous arriver communiste. Cette tentation, parce que c'est tentant de construire de manière fantasmée une identité fixe de grand homme qui incarnerait toutes nos idées.